Et on continue avec le premier invité de la matinale. Bonjour Laurent Chauveau.
Bien le bonjour.
Laurent Chauveau, chercheur au CNRS, écologue marin. Votre domaine, c'est donc la mer. Vous avez étudié les écosystèmes côtiers. Les experts du climat de l'ONU, le GIEC, ont publié un rapport cette semaine sur le réchauffement climatique. Le document pointe très clairement la responsabilité de l'homme. Et vous, Laurent Chauveau, eh bien, vous publiez un long article dans un nouveau magazine, ce qu'on appelle des MOOC, qui est un peu un magazine livre, Latitude Mer, qui montre un autre regard de la mer. Dans ce magazine, vous racontez la mer et vous dites qu'elle a viré du bleu au rouge du fait des algues toxiques, mais aussi de l'activité humaine, pêche industrielle et autres. Alors on va en parler. Il y a beaucoup de métaphores dans votre article, mais il y a une chose qui apparaît très clairement, Laurent Chauveau, c'est que la mer, pour vous, elle change de couleur et que oui, parfois, elle peut devenir rouge. Est-ce que vous pourriez très simplement m'expliquer le phénomène ?
Alors, il y a plusieurs phénomènes qui permettent d'expliquer pourquoi la mer devient rouge. Et ce que je tiens à préciser là, c'est que quand vous regardez la mer vue du ciel, elle est toujours bleue. Quand on la regarde attentivement et quand on essaie effectivement de décrire ce qui est en train de se passer en mer, lié au changement climatique et lié de façon générale aux impacts anthropiques en mer, on a des vraies difficultés à expliquer comment cet objet complexe qu'est la mer se met à dysfonctionner. Et que l'astuce trouvée ici, c'est d'utiliser quelque chose qui est un révélateur, comme on utiliserait un révélateur en photographie, qui est l'apparition de nuances ou de couleurs franches, de rouge en mer, comme révélateur de dysfonctionnement. Alors, le premier dysfonctionnement classique maintenant observé sur les côtes bretonnes et ailleurs, malheureusement, partout sur la planète, qui est l'apparition de marées rouges, des algues phytoplanctoniques, c'est-à-dire des algues, des micro-algues qui se développent naturellement dans l'eau de mer, se trouvent exacerbées dans leur développement et prolifèrent de façon excessive pendant les périodes courtes, mais comme ils contiennent des pigments rouges qui sont nécessaires à leur photosynthèse, à l'utilisation de la lumière pour croître, ces pigments, par une surconcentration, colore la mer en rouge, mais de façon franche, comme avec une couleur qui a celle du vin, et on a cette impression, c'est ce que j'écris, d'avoir des dieux qui font chabreau en milieu maritime.
Donc, vous dites aussi que c'est une catastrophe magnifique, est-ce que vous pourriez expliquer ?
À plusieurs reprises, quand vous regardez, vous prenez des photographies, vous regardez du ciel, ces marées rouges ou des boues qui arrivent au Groenland au large du Spitzberg, qui colorent un environnement avec des icebergs bleus ou des icebergs qui sont complètement blancs, magnifiques, et des glaciers qui viennent dans la mer avec cette mer qui se colore en rouge. Le résultat final est d'une esthétique rare, c'est réellement très beau. Là, on parle de la couleur, mais même le son sous l'eau est simplement magnifique. Donc, à l'arrivée, on a une catastrophe belle, c'est-à-dire d'un point de vue photographie et d'un point de vue poésie ou d'un point de vue philosophique, c'est assez beau. Ouais, c'est même très très beau, voire extrêmement exotique. On a l'impression d'être sur Mars. Mais au fond, le processus qui permet de faire ça est une réelle catastrophe.
En même temps, voilà, la mer souffre. C'est ça.
La mer souffre, et on a la preuve que la mer souffre depuis maintenant plusieurs décennies. Et une des motivations de ce MOOC, c'est bien d'expliquer à nos concitoyens que finalement, on a un problème de base, c'est qu'on a accumulé des connaissances. Je crois que les scientifiques ont fait leur job. On sait que le climat va mal, on sait que l'océan va mal, on sait qu'on le surpêche, on sait qu'on y introduit des espèces, une myriade de polluants. On sait tout ça depuis plusieurs décennies maintenant. Et il y a une forme d'autisme entre cette communauté de sachants et nos concitoyens qui s'approprient pas cette information, et on a un vrai besoin de maritimiser les humains ou de maritimiser au moins les Français et de leur permettre de s'approprier, pour des raisons qui sont pas forcément scientifiques, mais s'approprier la mer et accepter l'idée que elle aurait nécessaire et que on a une révolution à mener pour complètement protéger cet environnement.
Moi, j'aimerais comprendre quelles conséquences, vous dites donc c'est des micro-algues qui, entre guillemets, polluent la mer. Quelles conséquences ça a sur la faune, sur toute la chaîne alimentaire de la mer ?
Alors là, j'ai un très bel exemple parce qu'on a étudié de façon fine l'impact de ces algues sur le cycle vital d'un animal qu'on aime bien parce que c'est le plat festif des Français à Noël, c'est la coquille Saint-Jacques. Sur une coquille Saint-Jacques, quand se développent ces algues, parce qu'elles ont le mauvais goût de produire des toxines. Cette coquille Saint-Jacques a des vraies difficultés au stade larvaire. Lorsque l'animal est une petite larve qui nage dans la colonne d'eau, les toxines la tuent. Ensuite, donc vous avez un cycle vital qui est cassé parce que, au moment où l'animal cherche à se reproduire, il ne peut pas le faire parce que les algues tuent sa progéniture. À l'arrivée, plus subtilement, vous avez des animaux qui sont adultes, un peu plus solides. Ils ne vont pas mourir, mais qui arrêtent complètement leur croissance parce que ces algues nécrosent leurs branchies. Et vous avez une action toxique au niveau de tissus, au niveau de l'histologie. Apparaissent des choses très très franches, très nettes, avec des nécroses. Bon. Et donc, ce qu'il faut essayer d'intégrer, c'est que ces algues peuvent avoir des effets toxiques, nocifs, voire létaux sur l'environnement marin, sur les invertébrés. Et à l'inverse, ces toxines peuvent s'accumuler dans un réseau trophique. Elles peuvent être dangereuses pour l'homme. Vous voyez, vous avez des accumulations et des effets
alors,
collatéraux.
Alors, si on consomme
ça, c'est pour vous,
les coquillages, mais même si juste on se baigne, non?
Non, si on consomme, là, faut les avaler. Ouais. Vraiment, faut avaler de l'eau de mer. Faut avaler des coquillages qui ont préconcentré ces toxines, qui elles-mêmes sont toxiques pour vous.
Alors. C'est la mer. Vous le dites, hein, c'est les excès des hommes. Vous parlez de la surpêche. Mmh. Vous parlez de tous ces éléments-là. C'est nécessairement l'homme qui est à l'origine de ça, selon vous?
Ah ben, c'est pas selon moi. C'est on a mille fois la preuve. On a mis le rapport du GIEC. Vous dit on a enfin la preuve définitive de l'action humaine sur le climat en mer. On a cette preuve, l'introduction d'azote lié aux élevages intensifs en milieu marin côtier en Bretagne, a des actions sur les marées vertes, a des actions sur la dynamique de la production du phytoplancton, a des actions sur finalement la façon, les conditions, les règles de vie en mer. Mais c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour l'acidification, vrai pour la surpêche, vrai pour des choses qu'on oublie assez régulièrement, l'introduction du bruit. On a la preuve maintenant qu'un bateau qui navigue peut avoir un impact sur la faune. C'est vrai pour le déplacement d'espèces, quand vous avez des eaux de ballast qui déplacent des animaux depuis la Chine vers la baie de San Francisco, la baie de San Francisco se met à dysfonctionner. La question n'est plus de se poser est-ce que la mer va mal. On est à la limite de ce qu'elle peut supporter. On est en train de se poser la question est-ce qu'on a un point de non-retour. La question n'est pas est-ce qu'elle va mal, c'est est-ce qu'on peut encore faire quelque chose. On n'est pas très très loin des mêmes concepts du GIEC sur la partie climatique.
Mais alors justement, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous avez dit tout à l'heure, on s'en fout. Enfin, on a l'impression, en fait, vous le dites, vous scientifiques, ça vous intéresse, mais la population ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut changer à votre échelle, à notre échelle?
Je pense que ce MOOC participe à ça. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour s'intéresser à la mer. Il faut se rappeler qu'on avait des sandales ou des palmes quand on était enfant et qu'on allait chercher des crabes verts. Il faut se rappeler que on peut être simplement un baigneur ou un plongeur. Il y a mille façons de voir la mer, il y a mille façons de la goûter. On peut être c'est ce qui apparaît dans ce MOOC. On peut être un cuisinier, on peut être un marin du large, mais on peut être simplement un promeneur de plage. On peut être philosophe. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette partie-là. Est-ce qu'on peut utiliser les sons de la mer pour produire de la musique? Bref, est-ce qu'on peut la rendre sensible ou simplement se rappeler que enfant on allait à la mer et qu'elle a elle fait partie complètement de notre culture ou de notre construction.
Mais plus généralement à l'échelle du globe, il faudrait selon vous un statut à la mer?
Je pense que ça c'est le point qu'on devrait mettre sur la table maintenant, changer le statut juridique de la mer ou changer son statut. Là, je pense que réellement la nature a des droits et la mer a des droits et il va falloir qu'on arrête de se l'approprier et par contre qu'on lui mette toute l'énergie possible pour la protéger.
Mais quand on dit statut, qu'est-ce qu'on entend par là?
Quelque chose qui, d'un point de vue juridique, autorise sa défense.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si vous agressez la mer, ce qui est le cas quand vous faites de la surpêche ou quand vous avez une pollution pétrolière au large ou quand Hiroshima met de la radioactivité en mer, quels sont les recours ou quelles sont les possibilités de contraintes, comment on tord le bras à nos activités pour les limiter. C'est très difficile de réaliser ça en mer aujourd'hui. Hein.
Mais à ce niveau-là, qui peut?
Le CNRS fait ça et au CNRS Françoise Gaille fait ça. Il s'agit d'organiser d'abord la pensée autour de ce nouveau statut. Cette idée-là est naissante, mais il va falloir la défendre. L'UNESCO cherche à le faire et la Commission européenne ou l'Europe avec le projet Starfish cherche effectivement à réfléchir sur ce nouveau statut.
Vous êtes optimiste?
Ah oui, mais à chaque fois que j'ai vu des écosystèmes que j'avais vu abîmés, pour lesquels on avait pendant 4-5 ans autorisé la mer, cet environnement est juste extraordinaire avec sa capacité, sa résilience et sa capacité de reconstruction. Il faut absolument qu'on apprenne la paix à l'océan.
Merci beaucoup Laurent Chauveau, chercheur au CNRS, spécialiste des écosystèmes marins. Je rappelle donc que vous avez écrit dans ce magazine Latitude Mer, l'article s'appelle Encre Rouge et c'est une métaphore mais c'est aussi un vrai texte autour de la mer et de ce qui s'y passe. Merci beaucoup.
Merci mille fois.
France Inter.